Julien Gélas, ben nous sommes en face le plateau de la grande salle du Théâtre du Chêne Noir où on a des éléments que je laisserai aux spectateurs le plaisir de découvrir, du décor de La Belle et la Bête. Nous nous étions rencontrés peu avant Noël, vous m'aviez parlé de votre passion pour les contes en général. Qu'est-ce qui vous a plus particulièrement intéressé dans La Belle et la Bête ?
C'est un conte qui a en effet beaucoup de possibilités à un metteur en scène, à un auteur, parce qu'il y a du merveilleux, bien sûr, comme dans tous les contes de fées, mais c'est aussi une histoire assez passionnante, une histoire entre deux êtres qui sont assez prisonniers de leurs conditions, tout en l'ignorant, et qui vont petit à petit s'émanciper. C'est un voyage initiatique aussi, La Belle et la Bête, et j'étais très sensible à ça. Je trouvais aussi qu'il y a, dans cet aspect merveilleux, de créer des multiples images, des formes. Et en effet, c'est aussi, bien sûr, voilà, un spectacle. D'abord un conte qui parle des apparences, donc du rapport qu'on a aux apparences, à ce qu'on croit des fois être et qu'on n'est pas. Pour toutes ces raisons, voilà, j'ai une affection pour ce conte. Puis c'est un conte, en effet, je dirais, à partir de 5 ans, 6 ans, et qui peut s'apprécier, mais vraiment autant quand on est plus adulte, plus mature. Parce qu'il y a des contes qui font un petit peu vraiment conte pour enfants, juste pour enfants. Et là, je trouve que non, on a un conte qui traverse les générations.
Ce conte, à la base, vous l'avez adapté ou vous l'avez totalement réécrit ?
Totalement réécrit dans le sens où c'est une pièce qui de A à Z que j'ai écrite. Hein, donc j'ai donc tous les dialogues, les didascalies, tout ça c'est de l'écriture propre. Mais j'ai essayé d'être à la fois fidèle à la version la plus connue du conte, c'est-à-dire la version de Madame le Prince de Beaumont, sur des aspects importants comme par exemple la présence des sœurs et des rapports entre les sœurs et la belle. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de garder cette chose-là qu'on a perdue des fois dans certaines versions, des versions connues comme celle de Walt Disney ou d'autres. Là, j'ai voulu être fidèle à ça, mais j'ai changé aussi des choses. J'ai changé, par exemple, le rapport du prince. Le prince, en fait, a un conseiller, et ce conseiller, c'est le père de la belle. Bon, à ma connaissance, pas de version. En fait, j'ai voulu lier tous les personnages entre eux. Donc, ils ont tous un point en commun ou un lien qui les unit, qu'ils vont découvrir petit à petit, et que nous aussi, spectateurs, on va découvrir. Donc ça, c'était des modifications. Et puis, évidemment, sur le plan formel, il y a dans l'écriture voilà, plein de choses qui ne sont pas du tout dans la version originale, qui sont des adaptations, par exemple, avec du chant, avec du slam, avec du cerceau aérien, de la danse, et un univers numérique très présent sur notamment le château. Donc on est dans un château, mais c'est un château assez numérique.
La partie de répétition à laquelle j'ai assisté, c'est une partie qui est très forte au niveau du sentiment, parce que c'est presque la naissance d'une relation amoureuse. Et ce qui est très frappant, c'est que cette relation, elle s'exprime par des mots, mais aussi par des textes écrits. Par de la voix off. C'est assez étonnant, je trouve.
C'est aussi là une des caractéristiques de cette bête que j'ai réécrite. Elle a une dimension proprement artiste. Hein. J'aime bien, je l'avais déjà fait dans Le Chaperon Rouge, le petit chaperon rouge avec notre loup, qui était un violoncelliste, voilà, un homme entre homme et bête. Et j'aime bien aller montrer que la dimension peut-être aussi animale qu'on a en nous est pas si éloignée d'une forme de créativité aussi, une capacité à... Et donc on a une bête qui a une vraie sensibilité artistique et qui est capable d'écrire des poèmes, donc qui donne des poèmes à la belle. Il n'est pas vraiment en mesure d'exprimer ses sentiments de manière directe, loin de là. Il est tout à fait même, sur ce plan-là, on pourrait dire handicapé. Mais il utilise d'autres biais, il arrive à, par des lettres, par des voix, à exprimer plus ses sentiments et surtout sa tendresse, ouais, à l'égard de la belle.
La Belle et la Bête a été immortalisée dans la mémoire populaire grâce au cinéma également, au film de Jean Cocteau, qui est un film en noir et blanc, avec une superbe photographie d'Henri Alcan. Là, là aussi, là, dans l'extrait que j'ai vu, où on est dans le manoir de la bête, dans le château de la bête, j'ai l'impression que vous jouez sur le noir et blanc et la couleur d'une certaine manière.
Tout à fait. Il y a en fait des visuels qui sont des visuels donc, qui apparaissent, disparaissent, des visuels qui sont sur un aspect plutôt bleu, noir, donc une espèce de bleu translucide numérique et du noir. Et à d'autres moments, on est sur de la vraie couleur, mais c'est les mêmes visuels. C'est pour exprimer aussi des états différents. Alors on entend du son tout est normal. Bah, je vous précise, donc nos techniciens qui sont en train de travailler au plateau, mais on a notre équipe de vidéastes qui est à Lyon, depuis Lyon, est en train de prendre le contrôle sur tout ça et de travailler sur les vidéos. Voilà.
Le numérique.
Voilà, c'est ça. Ils travaillent depuis Lyon, là, sur les vidéos. L'idée, c'est d'avoir, selon les états, les moments entre la belle et la bête, des moments qui sont plus de l'ordre du spectral, on va dire, des sentiments pas affirmés, par exemple, et puis à des moments, des vraies couleurs, où là, les vrais sentiments s'affirment.
Quand on prend les textes que vous avez écrits, les spectacles que vous avez mis en scène, je pense qu'il y a eu Le Dernier Homme d'abord, après il y a eu Le Jeu du Président, où c'est un certain Gérard Gélès qui a signé la mise en scène, il y a eu aussi Lettre à un ami allemand, Albert Camus, que vous aviez mis en scène. À chaque fois, il y a quand même une précision, un raffinement artistique. Par exemple, dans Le Jeu du Président, on passait comme ça instantanément d'un trois pièces aux Heures de la République. Le décor d'archives de Lettre à un ami allemand était quand même très présent et très vivant d'une certaine manière. Lorsque vous vous attaquez à un texte que vous avez écrit ou pas, elles arrivent comment, les images, l'esthétique et la construction visuelle?
C'est une très bonne question, là.
Complexe,
mais très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir toute la réponse à cette question, mais en tout cas, ça dépend des spectacles, ça dépend bien sûr des projets, mais de manière générale, je considère que faire du théâtre, c'est aussi donner de la beauté, ou essayer de partager de la beauté aux gens. Malheureusement, un des mythe d'une partie de l'art contemporain a été de dire la beauté, on s'en occupe pas, c'est pas forcément obligatoire, on la met de côté. Là, je ne parle que de ma sensibilité, c'est pour moi, au contraire, je veux dire, si j'ai la chance de pouvoir partager des choses avec des gens, c'est pour aussi les éveiller à ce sentiment-là. La scénographie, c'est la première chose qu'on voit au théâtre, avec les comédiens, bien sûr, et les costumes. Donc, en effet, j'essaie d'imaginer tout ça. Là, en l'occurrence, pour La Belle et la Bête, c'est très particulier parce qu'on a de la vidéo presque en permanence. Et c'est tout ça qui a déterminé beaucoup de choses, c'est-à-dire l'univers graphique dans lequel on va évoluer. Et dès l'écriture, je disais à des amis il y a peu, je leur racontais que j'écrivais autant de didascalies que de dialogues. C'est presque un storyboard de cinéma. Je ne sais pas si je referais ça, mais il a fallu, pour aussi gagner du temps, hein, d'une certaine manière, parce que c'est un an et demi de travail, mais mettre toutes les informations possibles sur papier et déjà, en fait, à travers l'écriture, faire de la mise en scène. Après, on a ajusté avec l'équipe vidéo, évidemment, on a cherché des choses, on s'est dit oui, non, on a fait beaucoup d'allers-retours et voilà.
Par rapport à la belle Liwen Gelas, vous la connaissez bien, c'est une actrice d'origine chinoise qui a été formée dans son pays natal. L'opéra de Pékin, ça n'a rien à voir avec l'opéra occidental. C'est une forme de spectacle total qui tient du théâtre, de l'acrobatie, de la danse. Quand vous la dirigez, elle doit avoir un jeu à l'occidental, puisqu'on est quand même dans une histoire qui a marqué notre civilisation. Et comment, en même temps, vous utilisez ces capacités extraordinaires qui n'ont rien à voir avec le jeu dramatique?
Tout à fait. Il y a plusieurs choses avec Liwen que c'est vrai que je commence à connaître un petit peu. Il y a d'abord le fait qu'en effet, le français n'est pas sa langue maternelle. Donc elle a appris en 6 ans, 7 ans le français. Elle a joué des pièces au tout début en français sans forcément tout comprendre. Elle est passée par plusieurs étapes. Aujourd'hui, elle maîtrise mieux la langue. Mais il y a d'abord un travail sur le texte au plateau avec les comédiens pour lui dire « Ok, là, parle plutôt, mets ces nuances-là, etc. » Parce qu'il y a des subtilités d'intonation que forcément, elle n'a pas toujours encore. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a, en effet, par son caractère, sa culture, je dirais des émotions, à certains endroits, un état d'esprit qui me sert en tant qu'auteur et metteur en scène. Et c'est d'ailleurs de l'âge dont je pars, parce que là, la belle, c'est un être, au début en tout cas, assez pur, assez calme, en rapport avec sa famille, qui aime sa famille, qui est généreuse, qui est bienveillante. Et c'est vrai que c'est globalement des choses et des valeurs qui sont un peu en Liwen, que je connais, et qui sont aussi, de manière plus générale, dans la culture chinoise. Donc sur ça, elle n'a pas trop à forcer. Après, il y a un autre travail où là, il faut plus qu'elle compose, en effet, développer son personnage. Donc ça, c'est du travail, voilà, de direction d'acteur, comme avec tous. Après, en définitive, il y a ces possibilités dont vous parlez, d'abord parce qu'elle est danseuse, et puis de travail physique, parce que c'est des formations qu'elle a reçues. Et là aussi, c'est quelque chose qui est pour moi une chance, parce que ça me donne la possibilité, comme d'autres acteurs au plateau, qui ont d'autres talents, de pouvoir avoir une palette de couleurs comme ça, et de composer un tableau.
À ses côtés, on retrouve des grognards du Chêne Noir. Je pense notamment à la Bête, déjà, et puis d'autres acteurs qu'on a l'habitude de voir sur ce plateau.
Oui, on a Guillaume Lançon, notre bête, là, et qui en effet a aussi cette facilité d'être déjà dans une façon de jouer corporelle, bestiale. Là aussi, je me suis inspiré de lui pour partir sur l'écriture. J'aime ça, c'est une chance. On écrit aussi, on fait des spectacles pour les acteurs qu'on aime aussi et qu'on apprécie. Donc je suis parti de ça, et Guillaume, pareil, il y a des choses qui sont naturelles pour lui, il y en a d'autres qui le sont moins parce que c'est un rôle aussi à composer, c'est un rôle à créer. Et là, on est vraiment dans le moment du travail. Où on est en train de ficeler nos personnages. Et puis, oui, on a Renaud Gillier, qui est aussi artiste associé du Chêne Noir, qui jouait dans Le Petit Chaperon Rouge et qui est là, notre presque barde, j'ai envie de dire. C'est l'écrivain de la famille, c'est notre narrateur, c'est lui qui va tenir le fil de toute l'histoire et qui va nous amener d'un moment à l'autre dans l'histoire.
Par rapport à ce que vous avez proposé au Chêne Noir, que ce soit le dernier homme, le jeu du président, ou Le Petit Chaperon Rouge, et maintenant La Belle et la Bête, à chaque fois on est dans la fable finalement. Mais est-ce que vous allez alterner toujours, disons, une écriture plus centrée sur le jeune public et puis une écriture qui est plus centrée sur le tout public?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas vous répondre à l'instant T. C'est vrai qu'il y a ces deux axes pour moi qui sont, on va dire, un théâtre qu'on pourrait appeler plus adulte et engagé, où on est sur des problématiques qui touchent peut-être plus en question politique, social, sociétal, et ça me concerne bien sûr. Et puis un théâtre en effet plus jeune public, tout public, où là le merveilleux est plus là, et ces deux pôles-là sont pour moi des pôles qui me dirigent, qui m'intéressent, qui me passionnent. Alors il y a d'autres projets là, mais j'ai envie aussi d'aller vers la comédie un peu. J'ai envie là plus tard d'aller peut-être explorer ça. Voilà, de la comédie évidemment, avec une petite critique possible de ce qui va, mais c'est de la comédie justement.
C'est très grinçant, le jeu du président.
Oui, c'était grinçant, et en réalité c'était pas totalement une comédie, mais là au contraire d'essayer d'aller plus vers une... J'ai envie de ça, ouais.
Et belle représentation.
Merci beaucoup Michel, merci.